journal Loïc Barrière. En Tunisie, le oui à la nouvelle constitution l'emporte à 94,6% selon des résultats préliminaires dans ce journal, l'analyse du politologue Mohamed Kérou. Après le référendum en Tunisie, l'Union européenne appelle les autorités à préserver les libertés fondamentales. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman se rend en France. Au programme de cette visite, la question de l'énergie sur fond de guerre en Ukraine. Enfin, la sortie en France de Costa Brava Lebanon, un film de Mounia Akkel sur la pollution au Liban, un film dont Radio Orient est partenaire. En Tunisie, large victoire du oui lors du référendum sur la nouvelle constitution. Le oui l'a emporté avec 94,6% des voix. C'est ce qu'annonçait le président de l'autorité électorale Izi Farouk Bouasker sur la base de résultats officiels préliminaires. Selon de nouveaux chiffres communiqués par l'Izi, 30,5% des inscrits ont pris part au vote. Un nouveau calcul de la participation rejetée par la coalition d'opposants du Front du Salut National, une coalition qui accuse l'autorité électorale d'avoir falsifié les résultats. Entretien avec Mohamed Kérou, professeur de sciences politiques à Tunis. Pour lui, le résultat du référendum, anticipé par un institut de sondage, n'est pas une surprise.
Ce n'est pas une surprise, ni pour moi, ni pour l'opinion publique. Et déjà, un institut de sondage d'opinion, Sigma Conseil, avait déjà prévu ce score, autour de 30%, n'est-ce pas, de participation, et un oui massif autour de 90-92%. Mais les résultats, maintenant, nous les avons, les résultats préliminaires, à savoir 94,6% de oui et seulement 5,4% de non. Sur un nombre d'inscrits de plus de 9 millions, nous avons 2 830 000 votants, ce qui fait un taux d'abstention assez élevé de 69,5%. Mais ce taux de, comme vous le savez, en France et en Europe, on a eu également des taux similaires, donc c'est pas étonnant, d'autant plus que le référendum a eu lieu en plein été, en pleine vacances, durant une période de canicule, et puis un certain cafouillage autour du texte de la Constitution qui est l'objet du référendum.
Vous avez le sentiment que le boycott de l'opposition a contribué à ce oui massif ?
Justement, ça c'est une question très pertinente. Dans le taux d'abstention qui est autour de 70%, à savoir, comme je vous l'ai dit, de 69,5%, il y a à la fois le boycott, il y a les gens qui n'ont pas participé, qui ne sont pas allés voter. Alors, nous n'avons pas maintenant les détails, puisque les résultats préliminaires ont été livrés tard hier soir, mais selon l'Institut de sondage Sigma, qui a effectué un sondage le 25 juillet, il nous dit qu'autour de 21%, c'est le taux de boycott. Et que pour le reste, c'est-à-dire autour de 50%, c'est les gens qui ne sont pas allés voter. Donc nous avons un boycott autour de 20%. C'est important, c'est pas très élevé, mais c'est important, c'est-à-dire que dorénavant, le régime politique en place doit tenir compte de cette composante qui s'appelle l'opposition tunisienne. Nous avons donc une société politique clivée.
Quelles sont les prochaines étapes de la vie politique en Tunisie après l'adoption par référendum de la nouvelle constitution ?
Oui, je pense que les prochaines étapes sont très importantes. Il va y avoir, avant les élections législatives du 17 décembre 2022, il va y avoir adoption d'un code électoral et probablement d'une nouvelle loi sur les partis politiques et les associations. Ce sont là des deux textes qui vont être très importants pour préparer les élections législatives. Et comme vous le savez, la nouvelle constitution prévoit l'élection de deux chambres, d'un Sénat et d'un Parlement, si vous voulez.
comment sont structurés les partisans du président Kais Saied politiquement, puisque dans l'Assemblée nationale qui a été suspendue, il y a très peu de partisans du président de la République.
Oui, justement, le président de la République n'a pas de parti politique. Il ne veut pas d'un parti politique, il est même contre les partis politiques existants, contre l'idée même de parti politique qu'il pense être dépassé et peu représentative de ce qu'il nomme le peuple tunisien, qu'il met de son côté. Et donc il y a des sortes de coordination, des gens qui le soutiennent volontairement, mais il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas une structure verticale ni horizontale qui unit ses partisans. Et ses partisans sont à la fois nombreux, parce que le président est réellement populaire auprès des Tunisiens et des jeunes également, nous n'avons pas une structure politique qui les accueille, et ils sont divisés. Ils sont divisés, de plus en plus divisés. Il y a eu des divisions autour de la Constitution, mais ils restent unis autour du président et autour de ce qu'ils appellent le projet du 25 juillet qui a permis d'écarter l'islam politique qui a très mal gouverné durant les 10 dernières années. Donc il faudrait aussi comprendre que le vote pour la Constitution, en fait, qui est un vote plébiscite, le référendum plébiscite, est également une sanction de la gouvernance islamiste des 10 dernières années.
Quelles sont les priorités du président Saied maintenant qu'il a réussi à avoir une constitution qui lui donne plus de pouvoir?
Jusque-là, il était uniquement préoccupé par la question constitutionnelle. En constitutionnaliste, en juriste, il était uniquement préoccupé. On ne voit pas émerger un discours économique et social, mais je pense qu'il va... Ce discours va émerger et on est obligé de le voir naître. Autrement, la Tunisie va s'enfoncer davantage dans la crise économique avec, comme vous le savez, un taux de chômage qui dépasse 18% et qui atteint 40% auprès des jeunes diplômés, avec un endettement supérieur au PIB, avec une inflation galopante, avec une détérioration du pouvoir d'achat. Je pense que la question économique et sociale va se poser avec ce qu'elle implique comme dialogue nécessaire et obligatoire, à mon avis, avec la centrale syndicale, l'UGTT.
L'UGTT, c'est véritablement la force qui compte aujourd'hui en Tunisie ?
Absolument, absolument, c'est le pivot de la société civile. Elle a toute une histoire, elle est née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle a toujours été une composante fondamentale de la société civile et politique tunisienne. C'est un interlocuteur incontournable. Mais jusque-là, le président n'a pas voulu dialoguer, a refusé de dialoguer avec le JTT, pas d'une manière explicite, mais d'une manière implicite. Il les a pas impliqués dans le processus constitutionnel. À mon avis, il va y avoir nécessité pressante, d'ailleurs, d'entrer en dialogue avec l'UGTT et avec l'UTICA, c'est le syndicat des patrons, du patronat.
Avec en toile de fond les mesures préconisées par le FMI.
Absolument. Et avec, bien entendu, des réserves exprimées par le JTT sur, par exemple, le gel des salaires, sur la privatisation des grandes entreprises de l'État, mais le JTT n'est pas opposé, bien entendu, à l'intervention du FMI pour sauver l'économie tunisienne.
Mohamed Kérou, professeur de sciences politiques à Tunis. Et puis le département d'État américain estime que la nouvelle constitution tunisienne pourrait porter atteinte à la protection des droits humains et des libertés fondamentales. De son côté, l'Union européenne prend note des résultats provisoires du référendum constitutionnel organisé en Tunisie et appelle les autorités à préserver les libertés fondamentales. Une déclaration publiée au nom des 27 par le chef de la diplomatie, Josep Borrell. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman était en Grèce ce mardi. Il se rend ensuite en France pour évoquer les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans différents domaines. Cette visite dans l'Union européenne intervient 2 semaines après le voyage du président américain Joe Biden en Arabie saoudite. Une visite qui intervient dans un contexte de guerre en Ukraine et de flambée des prix de l'énergie. Des tirs de roquettes ont visé les abords du consulat de Turquie à Mossoul, dans le nord de l'Irak. Ces tirs interviennent alors que l'Irak a accusé la Turquie d'avoir bombardé, il y a quelques jours, une station touristique dans la région du Kurdistan irakien. Une attaque qui a fait 9 morts et 23 blessés. En Syrie, au moins 10 hommes armés tués lors de combats entre factions pro- et anti-régime. Les affrontements ont eu lieu dans la région à majorité druze de Souéda. L'Observatoire syrien des droits de l'homme précise que ces incidents ont fait également 20 blessés. En France, un projet de loi sur l'immigration sera discuté en première lecture au Sénat en octobre. C'est ce qu'a annoncé le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Mardi, Gérald Darmanin avait annoncé la présentation à la rentrée de septembre d'une loi pour lever les réserves empêchant l'expulsion du territoire d'étrangers délinquants. Une forme de double peine assumée par le ministre de l'Intérieur. La sortie ce mercredi sur les écrans français du film libanais Costa Brava Lebanon, en partenariat avec Radio Orient, le long métrage de Mounia Akel raconte l'histoire d'une famille qui a quitté Beyrouth pour vivre en autarcie dans une région préservée du Liban. Un film où une mère de famille est incarnée par Nadine Labaki, un rêve qui va finalement tourner au cauchemar quand une décharge s'installe dans ce paradis. Mounia Akel nous explique comment elle a eu l'idée de ce film.
En fait, il est né en 2015 pendant la crise des déchets au Liban. J'étais en train de manifester et j'ai essayé de m'imaginer le pire qui aurait pu se passer, juste pour essayer de mettre mes plus grandes peurs à l'image.
Et donc, vous nous montrez une décharge qui est en train d'être construite devant un havre de paix où s'est réfugiée une famille libanaise.
Oui, donc mon court-métrage Submarine est devenu une transition vers le long-métrage Costa Brava qui commence par une statue du président qui se fait transporter par un camion d'un Beyrouth noyé dans la crise des déchets, crise économique, de corruption, vers un havre de paix dans la montagne où on est présenté à une famille qui s'est isolée 8 ans auparavant dans un village au Liban qui ont décidé qu'ils ont perdu espoir en la société qui leur a brisé le cœur et qui veulent se créer une utopie loin de tout.
Et donc une décharge est construite en face de ce havre de paix. Et c'est une façon pour vous de parler des multiples crises qui secouent le Liban?
Absolument, parce que aussi la crise des déchets était une véritable allégorie pour tout ce qu'il y a de pire de chez nous, en fait.
Et vous montrez que la famille se divise alors que le chantier prend de l'ampleur. C'était notamment ce qui vous intéressait, le processus qui mène à la division.
Oui, absolument. C'était important pour moi d'explorer la pression, la manière dont la pression extérieure a des répercussions sur la famille et leur démon intérieur.
Alors, le scénario du film avait été écrit avant l'explosion du port de Beyrouth. Les bureaux de votre maison de production ont été dévastés. Comment avez-vous finalement réussi à faire un film dans ces conditions?
Avec beaucoup de difficultés. Faire le film dans une période aussi difficile au Liban, tout le monde nous prenait pour des fous, en fait. Mais je pense que ce qui nous a donné l'énergie, c'était la passion et le désir de raconter cette histoire. Et surtout le désir de résister.
Et le film a été tourné aussi pendant la crise sanitaire, ça a compliqué les choses?
Oui, en fait, la crise économique, la crise de la pandémie, c'était avant les vaccins. Donc tout ça, ça a apporté beaucoup de contraintes, en fait. Donc faire le film au milieu de toutes ces contraintes nous a donné un sens de... En fait, on sentait qu'on avait presque tout surmonté. Mais bien sûr, on tournait pendant la pandémie, avec la crise économique. Donc, mes producteurs ont dû vivre des obstacles complètement surréels.
Qu'est-ce que vous avez demandé à vos acteurs quand vous leur avez demandé d'incarner cette famille?
Je pense que chacun des personnages essaie de comprendre comment l'arrivée du monde extérieur pouvait faire ressortir ses propres questionnements. Donc les parents représentent quelque part cette question qu'on se pose souvent en tant que Libanais, partir ou rester. Cette famille, c'est peut-être un petit microcosme du Liban, mais d'une partie du Liban. Je parle pas de tout le monde, mais je parle de cette famille-là, de ces personnages-là.
Et il était important aussi pour vous de montrer le port de Beyrouth, puisque c'est une des premières scènes que l'on voit dans le film.
Ce plan, en fait, du port a toujours existé dans le scénario, même avant l'explosion. Et du moment où l'explosion avait eu lieu, le choix de garder le plan, malgré le fait que le contenu serait détruit, était un choix de ne pas oublier et de garder cette image vivante pour nous, qu'on oublie en fait. Et c'était difficile comme choix parce que on n'était pas prêt à regarder ça en face, mais c'était important pour nous et ça a contextualisé le film finalement. À la base, la statue était emmenée du port vers la montagne, même avant l'explosion, c'était ce plan, il y avait ce plan. Mais le choix de garder ce plan, alors que le port était détruit, était justement un choix de ne pas oublier ce qui s'est passé.
La réalisatrice Mounia Akel, son film Costa Brava Lebanon, sort sur les écrans français en partenariat avec Radio Orient. Enfin, football, l'équipe féminine de France rencontre l'Allemagne ce soir en demi-finale de l'Euro. Match retransmis à partir de 21h. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.